Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis IRM et je suis accompagné, comme toujours ou presque, par l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut IRM, salut tout le monde. Oui, ça, ou presque, hein, ça fait un petit moment que nos chemins ne s'étaient plus croisés du côté du show bleu.
Et oui, c'est terrible parce qu'on a quelques semaines du plus grand événement de catch et on s'évite. Et nos oui. chemins se ouais. croisent, ouais. s'évite. J'ai l'impression que tu m'en veux pour quelque chose, mais je ne sais pas quoi. J'ai dû dire une connerie dans un épisode où tu n'étais pas là. Et
ouais,
ça
c'est, en fait, c'est ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire que même moi, je ne sais plus pourquoi, mais j'ai l'impression aussi que je t'en veux, mais moi non plus, je ne sais pas pourquoi. Ouais,
on est un vieux couple de podcasts, c'est comme ça, au bout de 3 ans, on se prend la tête, mais on ne sait plus vraiment pourquoi. Une vieille rancœur, mais laquelle?
Sans doute, je cherche à mettre bon. Le doigt dessus. Ouais.
Je te propose de se rabibocher
ouais.
À l'occasion de cet épisode SmackDown très attendu. Hein. Vous en aviez discuté avec Chris, je crois, la semaine dernière.
Eh oui, oui.
Toi, je t'observe de loin, je te suis. Puisqu'effectivement, il y avait un gauntlet match qui était annoncé pour Kofi Kingston. Ce sera donc le main event. Mais avant ça, on va essayer quand même de booker le reste de la carte. Puisque cette carte pour WrestleMania, elle est grosse, très très grosse. Et SmackDown a sa carte à jouer justement. Et c'est le Miz qui ouvre le show du 19 mars. Il vient tout de noir vêtu et il s'adresse à Shane McMahon qui l'a trahi, qui l'a attaqué lors de Fastlane. Et oui, devant son père.
Mr. Miz.
L'homme poisson, la carpe humaine. Et je trouvais même qu'on avait parfois l'impression qu'il prenait plaisir à voir son fils. Il avait un petit rictus, il avait vraiment pas comment réagir. Bah, mais on va arrêter oui. de dire du mal chaque semaine du père.
C'est vrai qu'il y a une expression tellement énigmatique que du coup tu te demandes en effet s'il n'y a pas un peu de vice derrière son stoïcisme.
Ouais. C'est pas son père qui lui a appris à jouer quoi.
Non.
Une grande carrière non. à Hollywood. Oui. Il explique que Shane O'Mac hein, n'est pas né meilleur dans le meilleur best in the world. Mais qu'il est plutôt the worst because il est un McMahon quoi
et oui.
Quand on est un McMahon on est peut-être le best in business mais on est les pires raclures du game quoi. Donc il nous explique que lui il a dû se battre hein, pour en arriver là, que personne ne misait sur le Miz, qu'il a dû se battre. Il fait référence à son émission là de télé-réalité
The Real World,
ouais, voilà, donc il fait référence à tout son parcours, effectivement, et qu'il a gagné, hein, il a mérité, il est allé la chercher à la force du poignet et de ses promos, le succès qu'il a aujourd'hui. Il a droit même à des petits chants, là, You Deserve It, qu'il a vraiment, la foule est derrière lui, hein, la foule est derrière le Miz, il est vraiment le babyface de l'histoire sans aucune hésitation. Il explique voilà qu'il avait fait tout ça pour son père. Il bosse un worker et tout l'inverse de la famille McMahon. Et la seule chose que Shane mérite lui, c'est de se faire botter le cul à WrestleMania. Hop, lâchage de micro et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, votre nouveau top babyface de SmackDown, le Miz.
Eh ben, j'en ai pensé beaucoup de bien. On est vraiment loin du dernier face turn du Miz. Hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus organique qui s'est passé cette fois. Hein. Le public est complètement derrière lui. On y croit beaucoup plus. C'est vrai qu'on est, on est très loin du dernier face turn un peu forcé où on avait essayé de le coller à Ric Flair et tout. Enfin, on se souvient, ça n'avait pas été forcément une de ses meilleures périodes, même si le Miz a toujours cette faculté à quasiment tout faire fonctionner. Quel que soit son alignement, mais en tout cas voilà, là j'ai trouvé que c'était une promo vraiment top de babyface, voilà, de babyface d'émission. C'est des promos d'ailleurs on aimerait voir plus souvent des gens comme AJ Styles ou d'autres babyface de SmackDown faire des promos comme ça. Donc ça c'était bien, le public à fond derrière lui, on a envie de se mettre voilà derrière la bannière du Miz et son combat contre Shane. Je trouve que voilà, ça fonctionne bien. C'est une belle histoire cette rivalité, je trouve. C'est parti un petit peu de de presque d'un gag, comme souvent avec les trucs qui fonctionnent bien, ça part de pas grand chose. C'est vrai que cette association Shane Miz à l'époque, on trouvait ça rigolo, on se demandait combien de temps ça allait tenir, et puis finalement ça nous a complètement embarqué. La victoire au Royal Rumble, c'était incroyable, et puis bah maintenant ils vont avoir un match à WrestleMania, et tu te dis pas que c'est volé, quoi. Tu te dis ouais, ça s'est plutôt bien déroulé. Donc je trouve que cette promo venait bien parachever voilà ce build qui maintenant est un, pour moi et roule comme sur des roulettes. Là, ça va aller jusqu'à WrestleMania tranquillement. Il y a un truc qui m'a quand même marqué dans cette promo, c'est quand il revient sur quand il critique les McMahon et vraiment la racine du mal, quoi. C'est Shane, c'est Vince, c'est pareil. C'est marrant, hein, l'ombre de Vince et de cette pourriture de Vince McMahon, là, le heel suprême de la WWE, elle rôde quand même sur beaucoup de rivalités cette année à WrestleMania. Là encore, c'est mentionné. Ça m'avait un peu marqué pendant l'émission. Je me dis décidément entre Kofi, entre Becky, entre le Miz qui maintenant voilà ce fade, une sorte d'avatar un peu de Vince là avec Shane, son fils qui c'est un peu un trait commun.
C'est bien vu, quoi, parce que mais... c'est vrai qu'il y a une rivalité autour de la figure paternelle, hein, ça a pris racine aussi là.
Ouais.
Donc c'est un peu tel père, tel fils, ce qu'on nous dit là.
Oui.
Bon, j'espère que pour le Miz, c'est pas trop le cas. parce que je suis pas sûr que.
On a dit qu'on arrêtait.
Oui, mais je suis pas sûr qu'il y aura le Marine 8. Voilà. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il fait que des films d'action. Ouais. Mais effectivement, t'as raison. Voilà, l'ombre de Vince qui plane sur la WWE. Plus que ce qu'on aurait pu imaginer qu'il y avait eu le shake-up, etc. Mais bon, peut-être que voilà. J'espère que vous aimez Vince McMahon parce que on l'a un petit peu à toutes les sauces. Là, il est mentionné seulement, mais on risque de le voir à nouveau apparaître d'ici la fin du show. D'ailleurs, il a fait une petite dédicace à Kofi Kingston, là, le Miz. Donc, en total, c'est pas le seul. Il y a eu un petit fil rouge comme
pas
ça,
le seul.
Tout au long du show, où les top babyface faisaient à chaque fois trouver un moment dans leur promo pour en caser une pour Kofi.
Ouais, c'est du bon boulot. Hein. Il se met à la fois over, plus il parle du main event et de Kofi et tout dans sa promo.
Spécialité du Miz, hein,
oui.
C'est un mec que... Il perd pas de vue la big picture, toujours. C'est le company man parfait, hein, parce que c'est l'exercice, quand il se prête à l'exercice des commentaires, il est toujours en train de mettre over ses adversaires, les mecs qui sont là. Donc même là, il sait que c'est pas lui la star. C'est pas lui qu'il faut... Il n'y a pas que lui, et que la star de la soirée, ça va être Kofi Kingston. Donc,
c'est ça, exactement.
Bon, ouais. ils sont briefés, mais il le fait volontiers, et il va pas oublier ce genre de truc. Donc c'est vrai que là-dessus... Le Miz...
impeccable, toujours.
Impeccable, toujours bien sapé, et toujours des promos nickel. Bon, ce soir, on a une petite visite de courtoisie, mais pas que, puisque les championnes tag team de la WWE, Bayley et Sasha Banks, répondent aux provocations et à l'invitation qui a été lancée par The Iconics, qui les avait un petit peu... clasher en leur disant c'est bien beau d'aller à NXT, là, de faire votre tournée, mais quand est-ce que vous venez à SmackDown, parce que c'est là où il y a les vraies équipes féminines, c'est là où il y a les vraies championnes, The Iconics. Du coup, bah, elles se sont pas défilées, Bayley et Sasha Banks, puisqu'elles sont venues à SmackDown pour un match face à The Iconics, justement. Donc on a un match qui se déroule, qui ma foi, plutôt correct, interrompu par Lacey Evans, mais ça, on s'en fout. Mais tout ça commence un peu à provoquer une petite distraction, hein, qui commence un peu à changer la donne. Mais les méchantes ne parviennent pas à profiter de cette distraction. C'était, d'ailleurs, la distraction était un peu bizarrement jouée. Les filles ne savaient pas trop quoi faire. Là, elles ont passé pas mal de temps à se mettre en place. Même si, alors c'était assez original, parce que souvent, quand tu as des distractions, tout s'arrête, hein, sur le ring. Et ça ne... les gens reprennent, on met sur pause ce qui se passe sur le ring et les gens reprennent une fois que la distraction est terminée. Là, elles ont essayé de continuer un peu à catcher en même temps, mais pas trop. Un petit peu étrange, mais on va apprécier, l'intention était là. Donc les heels isolent Bayley, Sasha Banks pour le tag, met un super kick de Billy Kay sur Bayley, l'allonge sur le côté ringside et Peyton Royce en profite pour placer un petit roll-up bien verrouillé là pour la victoire. Voilà, défaite des championnes, mais au moins on a eu un match, j'ai trouvé assez correct. Je ne sais pas ce que tu as pensé là de cette visite de courtoisie de nos championnes.
Eh ben écoute, oui, c'était correct en effet, comme tu dis, je peux pas dire que le match était mauvais. Par contre, il m'a pas emballé parce que j'ai pas caché le fait que ces ceintures m'enflammaient pas particulièrement. Puis d'ailleurs le traitement qu'il leur est réservé me pousse pas en tout cas à m'impliquer émotionnellement un peu plus pour ces ceintures. C'est vrai que là, voilà, la ficelle semble assez grosse. On se dirige vers un multi tag team match à WrestleMania qui, vu pour l'instant comment c'est fait, pour moi à tout du pré-show matériel. Mais bon, on verra parce que je l'ai vu. Ils vont quand même peut-être pas. Enfin, ils vont quand même les garder sur la carte principale comme c'est une nouvelle ceinture et tout. Mais bon. C'est pas très 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 excitant. Ils ont rajouté les Iconics au mix par une sorte de un peu de fainéantise quand même de booking, hein, voilà, une sorte de victoire sur roll-up. D'ailleurs justement voilà, tu dis roll-up parce que en fait on se rend compte que les Iconics ont même pas de finisher, donc du coup on est obligé de les faire gagner sur roll-up.
Non, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous connaissez un lien vers le finisher des Iconics.
Alors honnêtement, je me souviens plus de leur match à NXT pour savoir si Peyton Royce ou Billie Kay avaient des finishers ou pas. Mais du coup, depuis qu'elles sont arrivées dans le main roster, elles s'en sont jamais servies. Donc c'est vrai que là, t'es obligé. C'est dommage parce que ça aurait été peut-être l'occasion justement d'en pousser un de finisher.
C'est vrai qu'elles manquent un petit peu d'identité entre les cordes, parce qu'à part crier, hurler
et faire leur petite pause rigolote là quand elles font Iconics et qu'elles se figent. Ça me fait toujours rire, ça. Mais bon. C'est vrai que voilà, elles ont pas trop. C'était quitte à les faire gagner contre les championnes, je trouve que c'était l'occasion d'ajouter une corde à leur arc, histoire de le jour du match pour le titre qu'on puisse croire à une victoire, quoi. Parce que là, en l'occurrence, on sait qu'elles sont là pour la figuration. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà. Bon, sinon à part ça, je trouve que c'est assez. Cette ceinture, moi, de toute façon, avant même qu'elle existe, j'avais de gros doutes. J'y crois pas trop. On verra. Voilà, moi, ça m'a pas enflammé ce qui s'est passé cette semaine.
Mais c'est marrant parce que là, je suis un peu comme toi, en mode, j'en ai pas grand-chose à faire de cette ceinture parce qu'ils n'arrivent pas à n'y apporter de l'intérêt, quoi. Hein, effectivement, alors que j'étais très excité, on va dire, à l'idée d'avoir effectivement une division tag team, en sachant que voilà, il y allait avoir des problématiques de roster, hein, effectivement. Clairement, avoir une division tag team dans la division féminine, c'est du luxe, quoi.
Oui, oui, c'est sûr.
Mais en utilisant la petite astuce d'un titre qui peut être défendu à travers toutes les divisions, ça, en soi, c'est ça qui apporte l'intérêt, en fait, c'est de créer des interactions. Ouais. Entre toutes les divisions, avoir les filles qui viennent à NXT, ça c'est génial, elles viennent à SmackDown, c'est super. Mais il y a deux problèmes ici, c'est que un, il y a en termes de storyline et de booking, pour l'instant il y a rien, on se repose sur le fait qu'elles vont à droite à gauche. Et Bayley et Sasha Banks, elles repartent de très très loin. En tout cas, ça c'est mon opinion, toi. Enfin, c'est mon ressenti, toi. Elles sont tellement perdus dans les méandres de la division féminine à Raw que...
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Oui.
Et puis voilà, elles sont toujours, je trouve toujours pas à la hauteur de ce qu'elles veulent être, toi.
Non, je suis d'accord. Mais ça, c'est en effet...
Bayley et Sasha Banks, des filles qui ont du talent, mais qui donnent l'impression que ça suffit, quoi. Que d'être des fans de la première heure, et d'ailleurs... Et sur le site de la WWE, là, ils ont balancé des photos de fans avec des catcheurs. Et tu as toute cette nouvelle génération, la Bayley, Sasha Banks, toi, elles vont chercher à voir des photos avec les frères Hardy, avec John Cena, etc. Donc c'est très cool. C'est des filles de notre génération, quoi. C'est toute cette génération. Et c'est cool, toi. Mais voilà, elles sont pas encore à niveau. Il faut qu'elles portent. Et cet exercice des ceintures, là, il faut qu'elles réussissent. C'est l'occasion rêvée pour elles, justement, de level up, quoi, de step up. Et
ouais, complètement. Non, pour l'instant, il manque une émulation un peu. Déjà, je trouve que En fait, au final, bon, bah, on les a collés ensemble, mais elles se neutralisent plus qu'autre chose. C'est-à-dire que je trouve pas que cette équipe ait une vraie identité autant que. En fait, c'est pas vraiment une équipe pour moi. C'est vraiment. Bon, bah, en fait, c'est toujours Bayley d'un côté, Sasha Banks, et finalement, elles se neutralisent parce qu'elles développent plus vraiment leurs personnages ensemble. C'est juste, bah, voilà, c'est l'équipe un peu de circonstance parce que clairement, dans la division et à l'époque où ils ont fait l'Elimination Chamber, il n'y avait pas photo. C'était la seule équipe qui était, je trouve, crédible pour prendre cette ceinture en premier.
Deux anciennes championnes. Voilà.
Voilà. Mais bon, maintenant, je trouve que voilà. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe encore dans la division féminine. À part là, c'était la première fois qu'elle rencontrait une vraie équipe, un peu avec les Iconics, qui sont une équipe pour le coup. C'est un vrai duo. Mais pour l'instant, la division tag team, bah, des filles, c'est bah, on crée en fait des duos un peu de circonstances pour faire une sorte d'émulation un petit peu, mais qui voilà, il y a pas encore des équipes bien établies, il y a pas des histoires emballantes, il y a pas des grandes promos pour l'instant. Les promos de Charlotte, de Sasha et Bayley, à part dire ah c'était notre rêve, c'est trop bien, c'est bon, on a compris. Donc il manque tout l'enrobage. Je pense qu'ils ont les quatre choses pour faire quelque chose, mais là, au niveau du décorum, de l'enrobage, des histoires, de la dynamique, il n'y a rien pour l'instant, en fait. Donc c'est vrai que pour l'instant, ouais, moi, ça m'intéresse pas des masses, quoi. Ouais.
Quand je parlais de génération de catcheurs, nouvelle génération, et ben j'ai la nouvelle génération à te présenter en la personne de Dominique. Dominique,
et
le
oui.
Fils de Rey Mysterio, oh là 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 là, incroyable. Donc t'as cette interview de Rey Mysterio.
Ça c'était dingue ça.
On nous apprend qu'il va affronter Samoa Joe à WrestleMania pour le titre US. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, tiens.
Oui.
Et puis y a la caméra bouge et puis ouais, je voudrais vous présenter quelqu'un. Et là, on voit un grand gaillard de 2m10. On sait que les enfants sont souvent plus grands que les parents, mais alors là, bon, c'était pas très compliqué, mais quand même. Dominique, le fils de Rey Mysterio, enfin...
Il fait costaud, hein.
Un grand costaud qui est donc catcheur, hein, en apprentissage.
Ouais, il paraît.
Et voilà, qui prend la relève. Alors, pour la petite anecdote, donc Rey Mysterio, évidemment, chaperonne complètement son fils. Et ben, il lui fait apprendre à la dure, hein, parce qu'il l'envoie à travers le monde... vas-y un petit coup au Japon et puis vas-y que je t'envoie en Europe et puis après t'iras au Mexique et tout, donc un petit peu comme les Young Lions au Japon, la NJPW, toi, genre tu vas apprendre
c'est ça.
À la dure en voyageant avec ton sac à dos, ta boîte mon fils. Alors c'est parce que t'es mon fils que les portes s'ouvrent quand tu arrives, mais tu vas devoir en ouvrir des portes. Et ben là ce soir, Dominique qui a troqué sa coupe de blond décolorée de fan d'Eminem à la grande époque, hein, quand on se battait pour la garde de Dominique.
Ouais, oh là là.
Oh la vache. Putain, savoir qui était le vrai fils, vous le saurez. C'est le gagnant de ce match qui détermine.
Qui était le vrai père.
Ouais. Le vrai père, oui, pardon. Le vrai père de Dominique. Franchement, les stipulations de l'époque, voilà.
C'était un autre level. Non, ça va être plus compliqué de faire ça.
Ouais, c'est bien. C'est un peu compliqué. Donc voilà, il est là, donc il le présente, donc il est fier que son papou sera à WrestleMania. Il sera évidemment au premier rang, c'est facile, hein, d'être au premier rang côté le fils.
Ah bah oui.
De Rey Mysterio. Bon, ça faisait plaisir de le voir, quoi. Enfin, je sais pas, j'étais content de le voir, que je l'ai pas vraiment connu, ce mec, c'était assez rigolo.
Ouais, non, franchement, c'était un moment assez rigolo, un peu... C'est assez difficile à décrire, c'était à la fois un peu what the fuck et en même temps assez touchant. Parce que tu voyais... Bah, c'est sympa de voir... c'est vrai que on l'a connu Minus, et puis du coup, maintenant, tu vois, c'est un colosse. Bon, après, à côté de son père, je pense que n'importe qui a l'air d'un colosse, un peu... Même les intervieweurs ont l'air géants, à côté de Rey Mysterio, même si je suis sûr que hors champ caméra, les intervieweurs doivent se blesser un peu, se baisser un peu, fléchir les genoux. Mais
sûrement oui.
Mais donc ouais, c'était un petit segment assez marrant. Écoute, je ne suis absolument pas renseigné sur Dominique, son talent, son entraînement. Est-ce que c'est un prospect, un hot prospect pour la WWE ou Est-ce que c'est un first round pick ou est-ce que c'est un peu du pistonnage de papa Ray? Je sais pas. Bon,
la vérité est entre les deux.
La vérité est sûrement un petit peu entre les deux.
Il va finir à NXT. À mon avis, là, le voir là, c'est parce que le mec.
Oui.
J'ai pas suivi. Hein, ça se trouve.
À mon avis, de le voir là, c'est qu'il est déjà signé un contrat, je pense. Ouais. En tout cas, il a déjà un pré-contrat. Ouais, c'est sûr. Sinon, il apparaîtrait pas à la télé, je pense. Et puis donc il y a cette annonce de match US qui ne me fait pas plaisir personnellement.
Ça me fait plaisir que ça te fasse pas plaisir.
Ouais,
parce que moi non plus.
Franchement je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout. Alors après certains comme Ringside notamment Ringside que vous entendrez peut-être prochainement à nouveau, on espère. Mais
qui viennent s'expliquer.
Mais qui nous dit sur le Discord pour ceux qui y suivent que on est un petit peu gonflé de faire la fine bouche parce que c'est vrai au demeurant. C'est un superbe match qu'on nous book, mais j'avoue que je suis un peu déçu parce que je trouve qu'il y avait mieux à faire, un petit peu partout. C'est vrai que le Rey Mysterio Andrade me faisait énormément de l'œil, moi personnellement. Je trouve que même d'un point de vue marketing, stratégie, c'était une très belle opportunité de mettre sur WrestleMania, le show le plus mainstream de l'année, une belle publicité pour la lucha et pour le catch mexicain et pour un style complètement différent de ce que tu vois, le reste du temps. Je trouve que c'était vraiment une opposition de style qui en plus se racontait toute seule et qui avait encore énormément de choses à nous réserver. Je trouve qu'il se prive vraiment d'un match... d'un match qui était très intéressant à tout point de vue et ça je comprends
véritable
pas
véritable argument hein, pour WrestleMania quoi.
Ouais et puis c'est un match qui avait du sens à WrestleMania même si on l'avait vu déjà 4-5 fois je trouve que l'histoire en était vraiment encore à ses débuts, ils avaient pas encore exploré aucune stipulation un peu traditionnelle du catch mexicain et puis je te dis c'est un showcase magnifique, je trouve, pour la lucha de faire ça à WrestleMania, donc je suis un peu surpris. Et puis parce qu'en plus, pour Samoa Joe, il y avait potentiellement d'autres adversaires possibles que Rey, donc c'est vrai que... en fait, je trouve qu'il neutralise potentiellement deux bons matchs pour en faire un.
Exactement.
Et je trouve ça bizarre, voilà. Je trouve ça bizarre d'avoir fait ce choix. Alors, est-ce que c'est parce que c'est vrai que... On avait évoqué déjà il y a 2-3 semaines, quand Samoa Joe avait pris le titre, sa promo, qui sentait bon, qui fleurait un peu l'ombre de John Cena, un petit peu là dans sa promo. On se disait, tiens, Samoa Joe, John Cena pour le titre US, ce serait fantastique aussi à WrestleMania. Est-ce que c'est un signe peut-être que John Cena va du coup se libérer pour une autre affiche qui sent bon, le John Cena aussi à Monday Night Raw avec Kurt Angle qui pour moi le match avec Baron Corbin est un leurre et ne tiendra pas. Est-ce que c'est un signe aussi, je sais pas. Bon, écoute, en tout cas moi cette annonce m'a déçu sur le moment, voilà, pour les raisons que j'ai évoquées.
C'était les montagnes russes. Content de voir le fils, mais alors l'annonce du père.
Ouais. Paradoxalement, parce que ça va être un bon match, hein. Mais c'est pas un match que j'avais envie de voir particulièrement. Ouais.
Non, je suis écoute, t'as fait l'argumentaire total, voilà, je suis d'accord avec toi. On regardera ça alors, en faisant la fine bouche. Comme
ouais,
ça.
Voilà, en faisant la fine bouche, oui, oh, c'est ça.
Oui,
voilà.
En fumant notre cigare avec le beer de whisky.
Oh, mais c'est très sympa, c'est très sympa. Ouais.
Un autre qui va avoir peut-être du mal à trouver sa place à WrestleMania, c'est Kevin Owens. Kevin Owens, oui. Qui en est rendu à présenter une émission, à faire le Monsieur Loyal entre Charlotte Flair et Becky Lynch dans le Kevin Owens Show, qui a un nouvel habillage. Voilà, il est très fier du nouvel habillage. Le graphiste a fait du bon boulot, comme le graphiste de Ketchup. Donc on a Becky d'un côté, Charlotte Flair. Kevin Owens, voilà, qui fait son numéro, même s'il est un peu en mode automatique, moi j'ai trouvé.
Oui.
C'était drôle, mais on entendait presque rires préenregistrés, tu sais.
C'est dans la lignée un peu de sa promo, je trouve, de retour, hein, mais ouais.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Autant sur son retour, sa promo, je l'avais trouvé. Je l'avais trouvé quand même assez bonne. J'entendais tes arguments, mais je trouvais que il y avait, c'était pas mal, toi, surtout. Enfin, il y avait avec Daniel Bryan, ça matchait bien.
Ouais.
Autant là, je commence à m'inquiéter un petit peu sur le rôle qu'il joue et les promos qu'il sort et surtout son Enfin, comment il, le rôle qu'il endosse, comment il le prend, toi, j'ai l'impression qu'il n'a pas l'air très inspiré, quoi.
Non, ça n'a pas l'air de l'inspirer.
Donc, sous l'angle de l'amitié, évidemment, il nous dit que lui, bah, attention, les amitiés, ça peut vite dérailler. Effectivement, il a un historique, un passif. Donc, ça, j'ai trouvé ça sympa.
Mal, ça.
C'est un peu où c'était un petit peu plus entendu, quoi. Voilà, donc il s'adresse à Becky en rappelant les passes d'armes qu'il y a là avec Ronda Rousey, en disant que c'est une blague et qu'elle pourrait gagner dans un match handicap. Après, il s'adresse à Charlotte en disant que Charlotte dit que elle pourrait. Enfin, il rappelle à Charlotte qu'elle avait dit que Becky portera bientôt ses sacs, qu'on arrivera à SummerSlam. Que grosso modo, Becky retournera dans la low card, elle sera juste bonne à porter les valises de Becky d'un hôtel à un autre. Donc voilà, il met un petit peu aussi de l'huile sur le feu, et puis il dit surtout, il y en a marre. Alors, là, j'ai énormément pensé à Chris à ce moment-là, parce qu'il dit, on veut pas vous voir parler,
drôle,
on veut pas vous voir des promos, on veut juste vous voir vous battre. Je pense à Chris qui, lui, veut pas les voir se battre, mais juste les voir faire des grosses promos. Alors pourquoi on ferait pas ça maintenant? Et Charlotte est remontée, mais comme une furie, là, elle fulmine, elle bouillonne. Elle dit, ouais, je vais te défoncer. Owens fait genre, attendez, par contre, hop, il s'écarte. Et les filles se mettent sur la tronche. La sécurité, tant bien que mal. Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Qui a formé ces agents de sécurité? Parce que.
Il y a des coupes budgétaires, là. Ouais.
Oh la vache, ouais, putain, les formations, là. Et puis ça se finit comme ça, donc. Bah là, on est entre les deux. Il y en a qui veulent voir les promos, on a eu un peu de promos. Il y en a qui veulent les voir se mettre sur la tronche, on les a un peu vus se mettre sur la tronche. Et au milieu, Kevin Owens.
Ouais.
Est-ce que tout le monde a trouvé sa place là, ce soir?
Bah, d'une certaine manière, parce qu'il n'en a pas d'autre, Kevin Owens. Donc c'est vrai qu'il a un peu trouvé sa place, on va dire. Ça lui permet de... Je trouve que c'était une utilisation plutôt intelligente de Kevin Owens qui lui permet de rester relevant un peu, hein. Voilà, il est lui restait un peu dans un segment chaud sous le feu des projecteurs, parce que très concrètement on l'avait assez vite compris quand il était venu se substituer à Kofi Kingston à Fastlane, qu'il était un petit peu là pour assurer la transition et que sa place à WrestleMania était tout sauf assurée. Bon, on en a un petit peu la confirmation, il y a de grandes chances qu'il soit dans la bataille pour André le Géant, mais que ça s'arrête là. Donc, on va dire que partant de ce constat-là, il a trouvé sa place, ouais. Il était pas mauvais en animateur un peu véreux de talk show, là, avec ses petites cartonnettes et ses citations. Il disait, le mec qui va dépoussiérer un peu le Twitter feed de quelqu'un ou tu sais, ce qu'il a pu dire par le passé pour essayer de foutre la merde. C'était assez rigolo. Alors oui, vous avez dit le 21 janvier 96 à la
surtout
terrasse.
Ouais, c'est ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu Kevin Owens sur Twitter, il était assez connu dans le game pour clasher tout le monde, en particulier les smarts et les fans qu'il alpaguait sur Twitter.
Ouais.
Il était assez costaud dans le game et puis il avait il y a quelques annonciateurs de son face turn ou de son twinner turn. Il avait complètement purgé son historique de messages et puis il suivait plus personne et puis
ouais.
et puis dorénavant il dit que des trucs sympas à tout le monde, donc...
ouais. Non, mais c'est vrai que c'est assez drôle, t'avais l'impression d'être devant une émission un peu de buzz à la télé où tu fais une confrontation un peu forcée entre deux personnes. Tu dis, oui, alors voilà, vous avez dit dans tel journal en 96, je cite, et puis tu sais, t'essayes de suivre. Donc ça, je trouve que la dynamique était assez rigolote, le segment était fun. La brawl était un petit peu molle, hein, on va dire. Mais
c'est une belle citation. La brawl était molle.
La brawl était molle. Oui, ça fait un peu nom de code.
Ici Radio Long.
Oui. Non, mais en même temps, elle était un petit peu à l'image du segment, à savoir que c'était plutôt dans l'ensemble, il y avait des bonnes idées, c'était plutôt bien exécuté, mais c'était assez convenu. C'est-à-dire que voilà, la mise en scène était un peu forcée, les punchlines étaient un petit peu un petit peu molle, c'était très convenu, ça a arraché quelques sourires, mais moi personnellement, je préfère les exercices précédents entre les deux de promo vraiment enflammés sans intermédiaire. Et les brawls qu'elles ont pu avoir par le passé, que ce qu'on a eu cette semaine, que j'ai trouvé était un poil moins réussi que d'habitude.
Bon, là, très convenu, on a suivi le script et on était un peu dans un, comme tu dis, un show télé où tout est scripté, quoi, tout simplement.
Ouais, donc, voilà, c'était un peu forcé.
Y compris les prises de bec. Tu prends deux personnes qui s'adorent et à la fin, ton objectif, c'est qu'elles se mettent sur la gueule. Il est temps de passer au gros gâteau, à la grosse part de cet épisode. On se souvient que Chris et Jessica l'avaient annoncé que ça allait durer, ça allait représenter les trois quarts, les deux tiers de l'émission. C'était un petit peu, c'était le cas, puisque le Gauntlet Match a tenu environ une heure, je crois. Hein. J'ai pas le timing exact, mais je crois que ça dure à peu près une heure.
Sensiblement, ouais, il me semble, en effet.
50, ouais, entre oui. 52 minutes et 58 minutes, on va dire. Daniel Bryan arrive d'abord, Ray Cohen est avec lui. Il nous explique, j'ai beaucoup aimé cette promo, que Kofi dans ce Gauntlet Match est une injustice.
Oui, ça c'était bien fait. Ça.
Et là, tu te dis, et en fait, le public aurait dû dire yes, aurait dû être d'accord avec lui, parce que l'idée c'est de faire un swerve, quoi, genre de twister. Ouais.
Le public a été un peu trop bête sur ce coup-là, c'est dommage.
Ouais, le public était un peu trop bête, j'aurais jamais pu penser dire ça du public.
Ils n'ont pas compris la blague, enfin le truc qui arrivait là. Ouais.
Ouais. Du coup après, Bryan fait, parce qu'il ne le mérite pas, mais c'était trop tard, tu savais, la blague n'avait pas fonctionné. Il dit, voilà, moi j'ai été au-delà de l'adversité, je me suis battu pour en arriver là, mais Kofi, on lui a donné, en fait, il a été choisi pour remplacer, effectivement, c'est vrai, il y a un fan historique avec ce fameux discours de Hill qui est vrai, parce qu'il a été choisi pour remplacer Mustafa Ali. On lui a donné une chance qu'il n'a jamais gagnée, jamais méritée. Il s'est combattu ardemment, mais à la fin, il a perdu, il n'a rien gagné, il n'y a aucune raison. Et c'est vrai qu'il est une opportunité à WrestleMania.
C'est terrible,
parce qu'à chaque
promo.
Fois qu'on lui a donné une opportunité, ben, il a perdu. Il a perdu comme tous les autres qui ont perdu. Alors pourquoi Kofi Kingston mériterait plus qu'un autre? Kofi n'est qu'un B plus player. Crac, allez, ça, voilà, ça c'est bon. Ça c'est pour le petit tac sur l'ancien Daniel Bryan. Et B plus, c'est bien B plus. Mais c'est pas suffisant pour aller à WrestleMania affronter le champion de la planète. Ça sert à rien de chanter là pour Kofi. Il perdra toujours. Le New Day arrive. Et donc, le Gauntlet Match va pouvoir commencer après cette promo qui a fait du mal. Hein.
Ah oui.
Je sais pas ce que tu en as pensé là, mais.
Elle est géniale cette promo.
Cruel.
Elle est super. C'est quelle super promo de Hill. De toute façon, Daniel Bryan est exceptionnel comme toujours. Hein. Il n'y a pas de débat. Son nouveau personnage, il le tient tellement bien. Il y a plus une once, même pas une micro pop, tout s'est transformé en détestation pour ce personnage, ce petit bonhomme là détestable, il est vraiment très 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 fort et comme toujours dans une excellente promo de Hill, il faut des propos qui sonnent vrais, qui sonnent justes et qui font mal et j'ai trouvé que c'était parce que c'est ça aussi la beauté du storytelling de cette histoire qui, je trouve, est vraiment bien fichue. C'est que on en oublie le fait que Kofi n'a rien à faire là. C'est ça qui est assez fort aussi, quand même. C'est que
c'est même ça, moi, intérieurement, c'est ça qui me gêne un petit peu dans cette histoire avec Kofi. C'est que une des raisons pour laquelle j'ai du mal vraiment à me sentir emporté par Kofi et être derrière lui, c'est qu'en fait, j'ai aucune raison de le supporter, toi. Enfin, j'ai pas vraiment embarqué à un point où suis derrière Kofi à 100% aveuglément, ce que reproche Daniel Bryan, en fait.
Ouais. Ah oui. Bah alors ouais. Donc justement, moi c'est un peu justement ça que je trouve fou, c'est qu'en fait, c'est que ils ont réussi à faire que en fait justement le public, de manière générale, hein, parce que son nom Kofi, il est scandé dans toutes les émissions depuis l'Elimination Chamber à chaque match. Donc c'est que le public justement suit complètement aveuglément Kofi Kingston en dépit de toute logique, de toute raison. C'est un suivi passionné, passionnel, complètement insensé. Alors que, en effet, c'est un accident industriel, c'est ce qui lui arrive, quoi. Enfin, il a remplacé Mustafa Ali, ce qui d'ailleurs, on saura jamais le fin mot de l'histoire, mais c'est vrai que c'est presque terrible, quoi, pour le Mustafa.
Mustafa Ali a tweeté récemment en disant qu'effectivement, dans son moment le plus dark, le plus sombre, quelqu'un en a profité, a pris une opportunité, et Kofi, et puis hashtag KofiMania, toi.
Ouais.
Donc, bon, après, ça fait partie du storytelling aussi, etc., mais effectivement.
Non, mais c'est vrai que cette histoire est assez dingue, et je trouve que l'avoir mis en mots concrètement et de manière froide et cruelle comme ça dans la bouche de Daniel Bryan, je trouve que ça a donné vraiment une super promo qui plantait le décor. Et puis voilà, la référence au B+ player, enfin c'est le nouveau Daniel Bryan, et c'est le nouveau Daniel Bryan prend encore plus son sens, quoi, parce que tu dis que le mec est devenu vraiment tout ce qu'il a toujours détesté et ce qu'il a combattu. Voilà, il n'a plus rien d'appréciable, en fait.
J'aimerais te citer cette réplique célèbre de Double Face, le méchant dans Batman.
Eh oui.
Tu la connais, évidemment, qui dit que les héros, soit ils meurent, soit ils se transforment en méchants.
Eh oui, c'est ça.
Et voilà. Et c'est ce qui se passe avec Daniel Bryan. Et c'est excellemment écrit, c'est excellemment exécuté. C'est incroyable.
Très, très fort. Il est très fort.
Du coup, voilà, c'est parti. Hein. Kofi Kingston va devoir une fois de plus profiter d'une nouvelle opportunité qu'on lui donne. En fait, du coup, tu regardes le match en disant c'est vrai quand même. Est-ce que ce serait pas lui le vrai fils caché de Vince McMahon? Parce que c'est ça qui est ouf. Parce que Vince McMahon, en fait, tu te dis quand tu es un. Enfin, quand tu suis les gentils, tu te ranges du côté des gentils, ce que tu es censé faire, toi, quand tu regardes le cas.
Oui, oui.
Ah, tu dis, ouais, Kofi Kingston, Vince McMahon, à chaque fois, il lui gâche, il lui vole ce qu'on lui doit, ses opportunités et tout. Alors qu'en fait, chaque semaine, on donne une nouvelle opportunité à Kofi Kingston.
Oui.
probablement le même Vince McMahon. Donc,
oui. Bon, après, c'est un peu assez... des opportunités en mode je joue avec ma marionnette, quoi. C'est pas. Le mec est quand même censé battre 5 gars à la suite, 5 top stars à la suite, quoi.
C'est pas fini.
Mais c'est pas fini.
On commence tout simplement avec la doublette de The Bar. Au début, j'étais là. Ma copine me fait, mais attends, il va les affronter tous les deux en même temps. C'est mal barré pour commencer. Je fais, j'en sais rien. Et non, c'est d'abord Sheamus et après Cesaro. Pas vous faire tout le déroulé, hein. Mais évidemment, Sheamus lui casse la gueule à Kofi Kingston. Voilà, c'est un gros costaud. Il prépare le bro kick, mais Kofi le contre et place ensuite son Trouble in Paradise dans un match qui a duré, un premier affrontement qui a duré quand même 15 minutes.
Ouais.
Donc Kofi déjà bien entamé. Cesaro prend rapidement la relève, hein, justement. Ça, c'était vraiment bien vu. Enfin, globalement, tout le match était vraiment plus autour des angles et enfin toi qui allait affronter Kofi, tout le monde avait une histoire un peu à raconter. Donc Cesaro qui était ringside, hein,
oui.
N'attend pas une minute de plus, il monte sur Kofi, enfin il monte sur Kofi, il monte sur le ring et Kofi aussi, allez tant qu'à faire, il y a là sa place des suplexes, enfin il le dérouille. Il y a du big swing, on place un cloverleaf, il est tordu dans tous les sens. Je crois qu'à un moment donné, Kofi est blessé, et le neutralizer qui suit est contré, et Kofi place le SOS pour le win. Donc en plus, voilà, on nous rappelle hein, tout le moveset incroyable de ce bonhomme élastique. Et Cesaro est éliminé à la 20e minute. C'est Rowan qui prend la relève. Alors lui, il est man on the mission pour le champion, pour son maître. Puisqu'il va lui placer une grosse close line et puis il ne va pas attendre très longtemps. Il va balancer Kofi dans les barrières. Il va chercher une chaise et il détruit Kofi Kingston en moins de 2 minutes.
Oui.
Évidemment, il est disqualifié, mais on s'en fout. Il s'en fout. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour détruire Kofi Kingston pour qu'il ne puisse pas arriver jusqu'au bout. Lui, il n'a rien à gagner à battre Kofi. Il veut juste le démonter. Et Kofi, d'ailleurs, est passé à travers la table des annonceurs. Et pour faire bonne mesure, quand on pense que c'est le pire est passé, la musique de Samoa Joe.
Elle est toujours efficace, la musique de Samoa Joe dans ces situations.
Vraiment, t'es là. Genre.
Ouais, t'es oh.
Samoa Joe arrive, tu dis, voilà, c'est fini, quoi. Il va juste se baisser et ramasser les miettes de Kofi Kingston. Le muscle buster de Joe est teasé, comme on dit, mais Kofi, le contre, Samoa Joe est donc éliminé. Samoa Joe qui est un peu coutumier du fait de se faire éliminer à chaque fois comme un con, il a détruit les becs.
Il a toujours sa tête de poisson, poisson sorti de l'eau après, avec les yeux exorbités, là, je comprends pas.
Je comprends pas, mais chez moi le gros costaud, c'est moi qui dois tout détruire, pourquoi je me fais éliminer comme un idiot. Faudrait peut-être un jour penser, réfléchir à ça, Monsieur Joe. Évidemment, Samoa Joe, comme à chaque fois qu'il se fait éliminer, bêtement, qu'est-ce qu'il fait après? Il étrangle
Oui, ça, c'est son truc aussi.
Il poursuit son adversaire et il l'étrangle jusqu'à ce qu'il devienne bleu.
C'est un méchant de film d'horreur, là.
Oui, bon, bon, Samoa Joe, c'est un cliché de cinéma, mais qui est génial, hein, évidemment.
Oui, oui.
Ce qui est très drôle, c'est que pendant tout ce temps-là, en fait, il y a des coupures dans le locker room où tu vois tout ce qui se fait un peu en babyface à SmackDown, qui suit les péripéties de Kofi Kingston.
Il y en a de plus en plus à chaque fois, c'est ça qui est drôle.
Ouais, mais j'ai trouvé qu'ils sont pas allés assez loin avec ça. Parce qu'effectivement, au début, tu en as de plus en plus, mais à la fin, tu le sens plus trop. Et j'aurais adoré qu'à la fin, tu aies genre tout le monde, même les techniciens.
C'est vrai, t'as raison, ça aurait été drôle ça.
Ouais. Et qu'à la fin, genre, t'es un plan large et genre, mais t'as 50 personnes en train de regarder la petite télé, tu sais. J'aurais adoré qu'ils fassent ça.
Ça aurait été pas mal ça.
Ouais. Ah, il y a quand même, ils l'ont fait, toi, mais à bout d'un moment, il y avait plus assez de gens, quoi. Je sais pas, de disponible. Et j'ai adoré, par contre, c'est les premiers qu'on voit, c'est New Day et après les
Usos.
Les Usos qui partagent des pancakes et tout, toi. Enfin, sauf un des Usos qui n'aiment pas. Je trouvais ça cool parce qu'il y a tellement d'historique entre tous ces gars-là. Et il y a vraiment ce côté, genre, ah ouais, c'est un des nôtres qui est en train de. Enfin, toi, un mec de la division tag team qui a une chance pour son titre et tout. Enfin, je sais pas, je trouvais ça cool vraiment ce passage-là.
Ouais, je suis d'accord.
Ça permettait en plus de rythmer. Et puis voilà, arrive le dernier opposant officiel de la soirée, Randy Orton. Le boss final, hein, le némésis de Kofi Kingston, hein, dans toute cette histoire, surtout dans l'historique, l'histoire de Kofi depuis qu'il est à la WWE. Et Kofi qui parvient, une fois de plus, à contrer et à éliminer en roll-up ses gros Golgoths, y compris Orton qui se fait avoir là, comme un bleu, mais presque, puisqu'il il arme le RKO et Kofi le compte pour le placer à un roll-up. Et donc, accrocher une victoire en 52 minutes et 55 secondes de Gauntlet Match.
Ouais.
Le New Day arrive pour célébrer la victoire de Kofi. Mais c'est pas terminé, évidemment. Le rêve va vite se transformer en cauchemar. Mais avant ça, j'aimerais ton avis sur ce Gauntlet Match de plus de 50 minutes. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Kofi Kingston ?
Alors, paradoxalement... J'ai pas été un grand fan de ce match. Déjà par comparaison avec son gauntlet de l'Elimination Chamber qui était avant l'Elimination Chamber qui était infiniment au-dessus de celui-ci, je trouve. Là, on était plus dans un long storytelling de 55 minutes avec vraiment des phases de survie différentes. Ce qui est sympa aussi, hein, c'était un peu moins divertissant, on va dire, parce que beaucoup plus de longueur, il y avait moins peut-être cette surprise ou cet exploit à chaque fois technique, physique, qu'on pouvait ressentir sur le dernier match. Je trouvais que c'est voilà, peut-être un poil trop long. Et puis après, il y a le déroulé aussi qui me perturbe un peu, c'est-à-dire que c'est... C'est presque too much, en fait, ce qu'il a réussi à surmonter, Kofi Kingston. C'est presque trop fort, finalement.
Notamment, à la surprise générale et en particulier, je vais faire mon Kevin Owens, sortir ma petite fiche de citation. Le 12 mars 2019, Chris et Giscal, vous avez prédit qu'il y aura à avoir de l'overbooking.
Oui,
amateur d'overbooking, attendez-vous à être gâté et à être servi pendant le match.
J'ai été très surpris de ça parce que je pensais justement que battre ces 5-là à la suite, c'était... c'est même Roman Reigns fait pas ça, hein. Donc d'ailleurs, j'invite les détracteurs de Roman Reigns à reporter une partie de leur haine sur l'exploit sans précédent de Kofi Kingston qui a marqué l'histoire vendredi soir, puisque 5 de suite, je crois que ça s'était jamais fait comme ça. Il y a un peu ça qui m'a gêné, c'est que c'était presque trop propre. Le seul passage que j'ai trouvé finalement bien fichu, enfin c'est pas le seul passage que j'ai trouvé bien fichu, mais un passage que j'ai trouvé vraiment bien fichu, c'était la disqualification express de Eric de Rowan, parce que je trouve que elle était logique, elle était c'est normal, lui il est là, en plus il est en milieu de gauntlet, donc ça je trouvais que c'était plutôt intéressant. Tu vois, le mec il est là pour déglinguer Kofi Kingston, il sait qu'au pire de toute façon il y a encore deux adversaires derrière lui, il est à l'aise quoi, tu vois, genre donc il y va, bam, il le défonce. Ça, je trouvais que c'était plutôt malin, c'était plutôt bien joué. Surtout après, derrière, d'enchaîner sur Samoa Joe. Tu te dis, bon, voilà, c'est la sentence, quoi. Donc ça, c'était pas mal. Mais voilà, il y a cet exploit qui me dérange un peu et qui, je trouve, aurait gagné peut-être. Enfin, et en même temps, je dis ça, mais enfin, aurait gagné à être teinté un peu de controverse. Mais en même temps, non, parce que c'est vrai que tu veux que ton babyface soit le plus héroïque possible.
Tu peux trouver un peu de controverse si tu veux vraiment. Je crois que c'est contre Samoa Joe. Il lui tient le slip pour le.
Ouais.
L'éliminer,
vrai,
enfin, toi, il y avait ce côté un petit peu, bon allez, je vais jusqu'au bout, mais ils en ont même pas vraiment parlé. Alors...
Non, ils en ont pas joué. Bon, alors il y a eu aussi les commentateurs, moi Corey Graves m'a un peu gonflé à répéter toutes les deux minutes que c'était impossible, il gagnerait jamais, parce que bon, là, on sait pourquoi on est là, hein, donc il y a pas de... c'était un petit peu too much. Mais voilà, il y avait quelque chose dans ce match de peut-être trop poussé, enfin ils ont trop mis le curseur sur l'axe, sur le côté héroïque de l'axe que vraiment la débrouillardise. Je trouvais que c'est vraiment voilà, Kofi était presque imbattable quoi, trop fort. Mais bon, ça a été rattrapé par ce qui s'est passé ensuite que j'ai trouvé sublime. Mais bon voilà, en tout cas à ce moment-là de la soirée. J'étais un petit peu sceptique. Je me dis qu'il y avait aussi peut-être un peu mieux à faire là-dessus. Parce que.
Moi aussi, effectivement, j'étais un petit peu, comme toi, hein, je me suis retrouvé un petit peu déçu. Même si. Enfin, effectivement, c'était. L'issue était évidente. Notamment parce qu'on nous avait teasé. Enfin, l'annonce, enfin, la carotte. Promise par oui. Vince McMahon sous-entendait qu'il allait se faire avoir alors qu'il allait gagner.
Donc forcément, oui, voilà, c'était sûr. Oui.
Je savais qu'il allait gagner. Et moi, c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment les deux derniers actes face à Samoa Joe et Randy Orton où là, j'ai trouvé qu'effectivement, ils n'ont pas été très inspirés sur la façon dont Kofi allait s'en tirer. En grosso modo, il a fait preuve de filouterie un petit peu en faisant des roll-ups d'opportunisme. Et tout en survivant face à des main eventers, enfin des, enfin voilà,
on va dire que là où parce que je suis peut-être un peu injuste sur le match, là où ça aurait été vraiment une grosse erreur et de booking et d'écriture et ça aurait été vraiment beaucoup trop exagéré, c'est si jamais il avait kick out du RKO, kick out du Muscle Buster, s'il avait gagné en plaçant ses finishers sur Samoa Joe, sur Randy Orton, tout ça. C'est vrai que non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est il a survécu, mais sans non plus encaisser ce qu'il y avait de pire possible. Donc, ça vient nuancer un petit peu mon.
Ouais, ça se tient quand même. Ils ont fait des choix qui ont été.
C'est vrai, enfin, c'est vrai.
Comme tu dis, voilà, il a filouté, il a fait du roll-up à la fin parce qu'il en pouvait plus, il était séché. Mais effectivement, comme tu l'as dit, ce n'est pas terminé. Il y a un vrai boss final. Vince arrive, il dit bravo Vince, vraiment bravo Kofi. Je pense que dans sa tête, il se dit aussi bravo Vince, c'était vraiment le meilleur.
Ouais.
Il dit bravo Kofi pour ta victoire. Kofi, tu vas à WrestleMania si tu parviens à battre un dernier adversaire.
Aïe, aïe, aïe.
Et le dernier adversaire apparaît, Daniel Bryan. Daniel Bryan, c'est lui le vrai boss final. Effectivement, c'est le champion. Du coup, bah, il faut battre Daniel Bryan pour pouvoir aller affronter Daniel Bryan à WrestleMania. Sauf que Daniel Bryan, bah, il n'est pas venu pour perdre, il est venu pour gagner. Il balance ses gros kicks, il place son yes chance. Effectivement, encore une énième provocation, mais un yes chance qui provoque des no. Toute la salle, on en parle sur le Discord, toute la salle est là, no, no, no. Donc pour que un yes chance provoque des no à ce point-là,
allez, il faut y aller, hein.
Ouais. Faut y aller. Donc là, c'était s'il fallait encore valider que ce mec avait réussi le meilleur heel turn. Voici la preuve finale, peut-être. Tout le monde est évidemment rangé derrière Kofi. Il place son level lock. Kofi arrive à atteindre les cordes. Donc on a encore un Kofi qui parvient quand même à s'en sortir. Mais à la fin, c'est impossible puisque Daniel Bryan lui écrase la face là, comme il le fait là, cette magnifique surprise là qu'il avait fait notamment face à AJ Styles où il lui éclate la tête contre le sol en tenant par les bras et à la fin donc le coup de genou, le running knee et Bryan pour le tombé final 1-2-3. Kofi Kingston n'ira pas à WrestleMania, pas d'opportunité à WrestleMania pour Kofi Kingston. Et Daniel Bryan qui remporte le Gauntlet Match. Bravo de Monsieur Bryan. C'est fini. Tombé de rideau pour Kofi Kingston. Jusqu'au prochain épisode.
Et oui, jusqu'au prochain épisode. Bon, voilà, on sait que ça va pas en rester là. Mais en tout cas, à ce moment-là, là, je me dis, c'était vraiment top. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle... c'était la meilleure façon de lui mettre à l'envers à Kofi Kingston. Là, c'était vraiment super bien fait. Voilà, il reste un dernier adversaire, le vrai boss final. Parce que c'est un truc dont on n'a pas parlé lors du Gauntlet, mais j'ai trouvé ça stylé quand même, la fin du match avec Randy Orton, qui se posait initialement en boss final, parce que, voilà, tu l'as dit, il y a une telle histoire, une telle controverse hein, dans la carrière de Kofi Kingston. C'est vrai que Randy Orton est présumé comme étant celui qui avait douché peut-être les espoirs de Main Event de Kofi Kingston, il y a une dizaine d'années, presque une dizaine d'années, ou même...
Oui, on en est là, oui, c'est ça.
Ouais, et voilà ce petit rappel. Déjà il y a deux semaines, Kofi lui avait dit dans un match là, stupide, là, Randy Orton l'a refait à un petit moment là, quand ils étaient dans les barricades là, il l'avait pris par le menton là, Kofi Kingston, puis il l'avait réinsulté, Randy Orton là, stupide, comme il y a 10 ans. Donc ça, c'est vrai que c'était assez sympa. Donc il se posait bien en boss final, mais du coup, en fait, la vertu de ce segment à la fin là, de cette intervention de Vince, c'est que bah, justement, ça remet vraiment Daniel Bryan en boss final. C'est lui le vrai boss final de cette histoire. C'est lui le champion, le connard suprême, vraiment, parce que là, quand il arrive et qu'il profite de la situation, qu'il écrase la face de Kofi Kingston, qu'il fait les chants et tout, c'est vraiment le méchant suprême, tu peux pas faire pire. Enfin, il cristallise vraiment toute la haine de toute l'arène des 15 000 personnes qui sont là. C'est vraiment, je trouve que c'était super bien exécuté. Et puis, ce coup de genou final où tu te dis qu'il va kick out, tu vois, genre Kofi. Et puis là, pour le coup, les commentateurs étaient bons. Genre, t'avais Byron Saxton, je crois, qui dit « Allez, vas-y, Kofi, genre, dégage-toi et tout. » Là, je trouve qu'on était vraiment dans le côté épique. On avait vraiment l'impression de regarder un peu une histoire, une sorte de truc homérique, un peu complètement hors du temps, où t'avais... Le héros qui était insubmersible, peut-être la vertu de l'avoir fait gagner les 5 matchs de manière assez clean, c'est que ça rend peut-être cette défaite encore plus cruelle à la fin. Tu vois, peut-être après coup, en reparlant, je me dis finalement, c'est vrai que c'est peut-être pas si mal que ça, parce que tu te disais finalement, il pouvait rien lui arriver, il était intouchable, Kofi Kingston, ce soir. Et le fait de le voir perdre voilà, sur ce coup de genou, alors que tu croyais qu'il allait se relever, c'est un crève-cœur, tu sens que voilà, la foule s'est écroulée d'un coup. Donc c'était vraiment, je trouve, un moment particulier. Puis ça pose en plus Daniel Bryan vraiment plus haut que finalement les 5 précédents, parce que certes, il arrive, Kofi Kingston est épuisé, mais n'empêche que Kofi Kingston, il avait beau être épuisé, il a battu Joe, il a battu Orton, il semblait insubmersible. Donc le fait que Daniel Bryan fasse finalement une affaire assez facile de Kofi Kingston, ça pose aussi le bonhomme, tu vois. Donc c'est ça, je trouvais que c'était aussi un autre aspect très très positif de ce segment final. Mais voilà, de manière générale, j'ai trouvé que cette conclusion était vraiment sublime, que tant dans l'exécution que dans ce que ça racontait ou ce que ça impliquait pour la suite. Voilà, Daniel Bryan, c'est le top heel, le champion, le mec à faire tomber. Et puis maintenant, il va falloir trouver une solution pour l'atteindre à nouveau. Peut-être ça qui va être aussi un peu compliqué pour la WWE. C'est là où mon avis n'est pas encore trop fait là-dessus. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais c'est vrai que à force de mettre des saucisses, à force de mettre des carottes, des trucs et tout...
C'est vrai que la digestion, quoi.
C'est vrai qu'après, tu te dis, ouais, attention, peut-être à pas non plus tuer le momentum, parce que là, la foule y allait à fond, parce que tu te dis, bon, bah voilà, le match, il va arriver. C'est vrai que là, à force d'envoyer des swerves, des trucs, des saucisses, tu te dis, finalement, il n'y a pas match, quoi. Enfin, genre, comment est-ce qu'ils vont trouver, quel est l'artifice qu'ils vont trouver pour que ce match arrive, tout en gardant la foule... impliqué. C'est peut-être ça l'écueil maintenant.
Bah effectivement, c'est moi je suis comme toi, je suis un peu dans l'expectative, je suis là en mode enfin comment ils vont y arriver, parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas à fond derrière Kofi Kingston parce qu'ils ont pris un choix, ils ont fait un choix pour le pousser qui n'est pas celui que j'aurais aimé voir. Moi, j'aurais aimé voir un Kofi qui vraiment se bat, fait des grosses promos, enfin que voilà, il y a un autre storytelling, une autre histoire à nous raconter plutôt que c'est et c'est ça qui est cruel, c'est vraiment ce que rappelle Daniel Bryan. Et en fait, finalement, c'est ça que j'ai aimé dans ce Gauntlet match, c'est le début et la fin. Tout ce qui est avec
Daniel Bryan,
pour moi,
oui.
C'était vraiment ça qui faisait l'essence de cette longue séquence, de ce long chapitre. Finalement, ce qui était l'affrontement, le Gauntlet match en lui-même est presque anecdotique, parce que ce qui compte, c'est un, ce que nous dit Daniel Bryan en retournant face aux fans, c'est la vérité de... Et en fait, ce gars, il n'a aucune raison d'avoir une opportunité à WrestleMania. Il ne l'a pas gagné. Moi, quand j'ai eu un match pour affronter le champion, je l'ai battu, quoi. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Et à la fin, en plus, il arrive. Et donc, effectivement, il anéantit cette dernière opportunité, qui est donc au moins la troisième ou la quatrième opportunité qu'a Kofi Kingston. Et qui sont quand même des belles opportunités que tout le monde n'a pas, quoi. Et c'est vrai que je me dis, mais attends, il reste encore 2-3 épisodes. Comment ils vont justifier? Enfin,
ouais.
Ils vont le justifier de façon très
simple.
C'est
bien compliqué de le faire revenir, en fait.
Ouais, parce que tu vas avoir. T'as tout le locker room qui est derrière Kofi. Alors peut-être que cet angle-là va être utilisé, justement.
Ouais.
Genre tout le vestiaire. Ouais. Tout le vestiaire va arriver et va aller voir Vince McMahon, par exemple. Enfin, va le mettre devant le nez dans sa mère en lui disant.
Ouais, arrête de faire le con maintenant.
Ouais, une sorte d'angle un peu à la Raw Invasion comme avait fait Daniel Bryan, mais au lieu de faire venir tout le public, bah c'est le vestiaire, le locker room qui se rebelle, quoi, puisque Kofi Kingston est l'emblème du locker room, c'est la mascotte du locker room, et que grosso modo, le locker room en a marre de se prendre des saucisses et des carottes, comme tu le dis, par la famille McMahon, et grosso modo, ça va être une sorte de les catcheurs contre le système McMahon, quoi, qui est représenté aujourd'hui par Kofi contre Daniel Bryan, ce que je trouve super. Parce que
ouais.
Effectivement, c'est assez emblématique. Qui mieux que Daniel Bryan pour être le corporate guy de McMahon, quoi. C'est un classicisme fou, mais c'est super bien porté. Et Kofi Kingston, effectivement, quand bien même moi je suis pas. Ils n'ont pas réussi à cultiver suffisamment le côté affectif pour Kofi, je trouve. Toi, je me suis pas. J'aurais aimé qu'on nous montre vraiment, qu'on nous raconte la belle histoire de Kofi. C'est quoi en fait? Parce que là, on le touche, on le montre sans jamais vraiment le montrer. On le touche sans vraiment le toucher. On nous montre juste un Kofi victimisé qui se fait rouler dessus chaque semaine, quoi. Et bon, bah voilà. Au bout d'un moment, les victimes, c'est bien, mais au bout d'un moment. Bah, tu dis, bah ouais, il va jamais y arriver, alors peut-être que ça devrait être un autre, quoi, je sais pas. Peut-être qu'un autre devrait se lever pour y aller, mais bon, bah, on y va, hein. Kofi Kingston va affronter Daniel Bryan, ce serait d'une bêtise énorme de pas le faire. Mais c'est vrai que, bon, au moins je suis curieux de voir ce qui... D'un point de vue télé, c'est bien joué, parce que j'ai quand même envie de voir la semaine prochaine ce qu'ils vont encore nous sortir du chapeau, mais...
C'est ça.
D'un point de vue... affection par rapport à l'histoire, enfin, le côté vraiment écriture de l'histoire et comment moi je me transporte dans l'histoire, ça dégrade un peu en fait le comment je me transpose dans le héros de l'histoire, tu vois ce que je veux dire. Kofi, ouais. Je me sens pas investi derrière Kofi comme je devrais l'être, mais bon, c'est pas le cas de la foule qui est clairement derrière Kofi, et en plus si on nous rajoute tout le roster derrière hashtag Kofi Mania. voilà, même Kevin Owens en a placé une pour lui, donc moi je vois bien un angle la semaine prochaine avec que le vestiaire va avoir un rôle à jouer là-dedans d'une façon ou d'une autre, parce qu'il reste plus en carte à jouer là, je vois pas laquelle, tu vois, celle-ci est la plus simple à jouer, je pense.
Oui, c'est vrai, tu quitte à la limite, autant y aller à fond dans le miroir, c'est vrai que avec Daniel Bryan, c'est ce qui est assez drôle, c'est vrai, puisque finalement, voilà, Daniel Bryan, après avoir épuisé tous les recours possibles et imaginables, bah, il avait fait le Occupy Raw, là, ce segment incroyable, et cette révolution, là, le public qui avait occupé le ring de Raw et tout, et du coup, qui bloquait l'émission, et ça avait obligé Triple H à accepter le match. Bah, peut-être que là, ils peuvent faire un truc un peu du même style, mais ce serait le vestiaire, peut-être. Voilà, Kofi Kingston semble tellement apprécié. Ça pourrait être une sorte de clin d'œil avec une petite variante qui serait assez sympa, ouais.
À voir, c'est la balle est dans leur coin une fois de plus. Hein, à chaque épisode de Catch Up, on renvoie la balle à la WWE, qui vont bientôt déménager d'ailleurs à Stamford, leur bureau de Stamford.
Ah bon ?
Ouais, ils vont déménager. Je ne sais pas s'ils vont rester à Stamford, mais ils vont prendre des bureaux plus grands pour réunir toutes les équipes.
Je l'ignorais.
L'administratif, l'ARH, les équipes de prod, voilà, tout le monde va être rassemblé.
Très bien, très bien.
Donc voilà, peut-être un renouveau hein, pour la WWE à tous les niveaux. En tout cas, c'est comme ça que se termine cet épisode très particulier hein, de SmackDown, qui, quand même, gros point, ça c'est aussi un exercice SmackDown est particulièrement bon si on était focalisé sur le prochain pay-per-view, à savoir WrestleMania. Du coup, c'est l'heure du mot de la fin. Giscard, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Yes. Alors, ma note, elle est. J'ai eu beaucoup de mal à me déterminer sur ma note parce qu'en fait, l'émission dans son ensemble est vraiment excellente. Et à chaque fois, l'intérêt des segments, enfin en tout cas la finalité des segments était plutôt, enfin était même toujours très très bien axée. Mais il y avait beaucoup de choses qui me gênaient à droite à gauche ou des trucs que j'ai trouvé peut-être un peu moins efficaces que d'habitude, que ce soit avec Kevin Owens et Charlotte. Becky, ou là, voilà, cette histoire de gauntlet match, c'est pas forcément exactement ça, ou Samoa Joe et Rey Mysterio, donc je me suis arrêté sur seulement 3,5, malgré le fait que je trouve que c'est quand même une très bonne émission, mais je sais pas, voilà, écoute, j'ai 3,5 dans ma besace, peut-être que ça méritera plus pour certains, et mon top, c'est sans conteste sur cette émission Daniel Bryan, qui moi me subjugue à chacune de ses apparitions dans sa maîtrise de son personnage. C'est assez incroyable ce qu'il réalise avec un truc qui était très casse-gueule quand même. Et mon flop, je vais pas le mettre au tag team féminine parce que j'en ai un peu rien à faire, donc je mets généralement pas trop de flop au truc dont je me fous. Je vais plutôt le mettre à cette annonce un peu décevante de Samoa Joe contre Rey Mysterio à WrestleMania qui moi me laisse sur ma faim pour les raisons dont on a parlé. Voilà.
Écoute, moi, mon top, je l'aurais donné, il va à Daniel Bryan officieusement, mais je vais le donner, allez, au Miz, à la promo du Miz, qui était vraiment bien, bien menée, et voilà, c'est toujours un exercice impeccable, et j'étais bien emporté là par sa promo, il a vraiment réussi à emporter tout le public derrière lui, et c'est pareil, le Miz, c'est quand même un peu à la façon de Daniel Bryan qui a réussi à retourner tout le public contre lui, le Miz a réussi à embarquer
tout
le public, y compris toute la frange de Smart, quoi, qui voilà, le Miz représentait vraiment l'antithèse de ce que les Smart aiment dans le catch, quoi, à l'opposé des indies, etc. Ça s'est pas joué sur cet épisode, c'est joué sur des années et des années, mais là, ça, je trouve que ça a bien encapsulé là où le Miz en est arrivé aujourd'hui, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Et du coup, ça, voilà, c'est mon top va au natif de Cleveland. Mon flop, alors j'ai pas de gros flop. Est-ce que je vais pas le donner au Gauntlet Match, même si effectivement je l'ai trouvé un petit peu décevant et je suis un peu comme toi, j'arrive pas forcément à décider si je l'ai aimé ou pas.
Ouais.
Mon flop, je vais le donner. Je sais pas, allez, pour déconner, je vais le donner à la sécurité là de. J'ai pas foutu de séparer Becky et Charlotte. Les mecs étaient à moitié morts de rire et tout. Je sais pas. En fait, ce brawl était pas terrible. En fait.
Non, franchement, ouais, c'était pas terrible.
Un peu à côté de la, un petit peu too much. Effectivement, je crois que Chris a raison. Faut plus qu'elle se mette sur la gueule. Ces filles-là, quoi. Donc voilà. Bravo Chris, tu as raison. On nous l'a encore prouvé ce soir. Et ma note, bah écoute, tu trouves que 3,5, c'est peut-être pas une grosse note, mais moi, je vais donner un 3. Je vais donner un 3 épisode. Parce qu'effectivement, il était un petit peu trop convenu, globalement, cet épisode. Ouais. Il a manqué de surprises. Il a parfois même été décevant. Ceux qui devaient assurer, à savoir, à mes yeux, le Miz et Daniel Bryan. Le reste était sur des rails. Le Gauntlet Match était sur des rails. Voilà. Et en plus, voilà, il y a peu de surprises. Et je suis encore toujours aujourd'hui à me demander pourquoi j'arrive pas à être. Enfin, si, je le sais pourquoi, mais voilà, Kofi Kingston, j'ai pas toujours pas embarqué dans le train Kofi Kingston. Et ça m'embête un petit peu de passer à côté, en fait. Je suis un peu déçu de pas. de pas être dans le Kofi Kingston
Ben Wagon, quoi.
Voilà, du coup, bah, j'apprécie malgré tout l'exercice, mais c'est grâce à Daniel Bryan, et du coup, c'est un petit peu emmerdant que ce soit juste à cause du... grâce au...
d'huile, ouais.
Donc voilà, donc, je trouvais que c'est un exercice qui était très focus, ça, je le reconnais aisément. Mission accomplie par rapport à l'objectif qui est WrestleMania, mais SmackDown nous a habitués à être un petit peu plus surprenant ou un peu plus subversif ou un petit peu plus, voilà, des choses un peu plus...
Il manquait un petit truc.
Un petit peu de folie à quelques semaines de WrestleMania, donc voilà, un exercice, une bonne copie, mais voilà, une copie sans grande saveur, quoi, voilà, un bon plat, mais voilà. On attend ce que le chef nous propose.
Peut mieux faire.
Voilà, le chef peut nous proposer mieux la semaine prochaine, j'en suis sûr. Du coup, c'est comme ça que se termine également cet épisode de Catch Up. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous suivre toutes les semaines. Pour cela, il suffit de vous connecter sur iTunes, Podcloud ou Spotify pour l'audio ou en vidéo sur YouTube. Vous nous cherchez un Catch Up, évidemment. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, c'est Catch Up CDC. Rejoignez-nous également sur Discord, le lien est dans la description. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Donnez-nous également des notes. N'hésitez pas à nous mettre des pouces, des cœurs, des faves, ce que vous voulez. On vous donne rendez-vous en tout cas la semaine prochaine pour découvrir quelle vilainerie a encore dans sa poche Vince McMahon. Comment il va encore essayer de nous de screw les rêves de Kofi Kingston. Quelle opportunité va-t-il encore donner à Kofi Kingston pour ensuite la lui retirer ? Vous le saurez la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous, évidemment, une bonne semaine pleine de catch. Je te remercie encore, Giscal, pour ta fine analyse.
Écoute, c'était un plaisir. Merci à toi pour ta présentation, comme toujours.
Et vous, la semaine prochaine. Salut.
Salut tout le monde.
Ben voilà, c'est le début du reste de ta vie.